Vous êtes bien sur Radio Orient, il est midi, le journal Nawal El Amouchi. Emmanuel Macron accueille à Paris cet après-midi le président syrien par intérim Ahmed al-Shara pour une première visite controversée en Europe depuis la chute de Bachar el-Assad. Une occasion pour le président français d'aborder la lutte antiterroriste, selon le chef de la diplomatie française. Le monde ne peut pas se permettre une confrontation militaire entre l'Inde et le Pakistan, a déclaré l'ONU, peu après des frappes militaires sanglantes entre les deux pays. Et nous y revenons plus en détail au cours de cette édition. Les cardinaux du monde entier ont commencé à célébrer ce matin dans la basilique Saint-Pierre au Vatican la messe, qui va précéder l'ouverture du conclave cet après-midi. Objectif, élire le successeur du pape François. Le monseigneur Michel Dubost, ex-évêque d'Évry-Corbeil, nous expliquera comment se déroule le conclave. Et on commence ce journal par l'actualité au Proche-Orient, à Gaza d'abord. 8 membres d'une même famille, dont des enfants, ont été tués dans une frappe israélienne à Khan Younes, selon la défense civile locale. 3 autres personnes ont été tuées dans un autre raid dans l'enclave. Et le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, a exprimé sa condamnation très ferme du plan israélien de la conquête de Gaza. Il a assuré que la France entend œuvrer à une solution politique à 2 États. On l'écoute.
Les Gazaouis manquent de tout, ils sont affamés, ils sont assoiffés. Et nous ne pouvons pas, personne ne peut rester sourd aux cris d'alarme de la Croix-Rouge et des Nations Unies. Personne ne peut détourner le regard des souffrances des familles palestiniennes qui ont été décimées, telles que celles que nous avons rencontrées avec le président de la République il y a quelques jours à El Arish en Égypte, à 30 km de la bande de Gaza. Et c'est pourquoi la France, inlassablement, appelle, comme vous l'avez fait, à un cessez-le-feu immédiat, à l'accès sans délai et sans entrave de l'aide humanitaire à Gaza et à la libération immédiate de tous les otages du Hamas qui doit être désarmé pour qu'un avenir politique puisse se dessiner pour la Palestine comme pour Israël. Parce que oui, au-delà de l'urgence, au-delà des dénonciations et des condamnations, la France entend œuvrer activement à une solution politique, une solution à 2 États, seule susceptible de ramener la paix et la stabilité dans la région et à répondre à l'aspiration légitime des Israéliens comme des Palestiniens à vivre en sécurité. C'est dans ce sens que nous travaillons pour préparer cette conférence des Nations Unies que la France co-présidera aux côtés de l'Arabie Saoudite, à la préparation de laquelle je souhaite que le groupe d'amitié entre la France et la Palestine, que le groupe d'amitié entre la France et Israël puisse contribuer très activement.
Le ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot et le président palestinien Mahmoud Abbas est attendu le 21 mai à Beyrouth au Liban. Au menu des discussions, l'extension de l'autorité du pouvoir libanais au camp des réfugiés palestiniens échappant à son contrôle. Les détails avec vous, Nadia Bencher.
Mahmoud Abbas attendu le 21 mai au Liban. Au menu des discussions, l'extension de l'autorité du pouvoir libanais au camp de réfugiés palestiniens échappant à son contrôle. Environ 250 000 réfugiés palestiniens vivent aujourd'hui dans des camps surpeuplés au Liban. Ces camps abritent non seulement des membres du Fatah fidèles à Mahmoud Abbas, mais aussi des partisans du Hamas et d'autres groupes armés palestiniens. Le 30 avril dernier, le président libanais Joseph Aoun a indiqué que les autorités travailler activement pour retirer les armes lourdes et moyennes de tout le territoire libanais. Une démarche qui pourrait mener à des discussions avec Mahmoud Abbas sur le désarmement des camps palestiniens. De son côté, le Premier ministre Nawaf Salam a souligné l'importance de remettre les armes illégales à l'État et de garantir que des factions comme le Hamas ne mettent pas en danger la stabilité du pays. Le bureau du président palestinien a confirmé la visite de Mahmoud Abbas au Liban prévue pour le 21 mai, après que des membres du Hamas ont été arrêtés pour avoir tiré des roquettes vers Israël, malgré un cessez-le-feu en vigueur. Selon un responsable libanais, Abbas discutera avec les autorités des modalités pour étendre l'autorité de l'État à l'ensemble du territoire, y compris dans les camps palestiniens. Rappelons que selon un accord de longue date, la sécurité dans ces camps est assurée par des factions palestiniennes, l'armée libanaise n'y intervenant pas.
Au Yémen, maintenant, des frappes israéliennes sur l'aéroport de la capitale Sanaa ont détruit des terminaux et causé des dégâts estimés à 500 millions de dollars, selon le directeur de l'aéroport. Et nous l'avons évoqué dans les titres, Emmanuel Macron accueillera à Paris cet après-midi le président syrien par intérim, Ahmed al-Shara, pour une première visite controversée en Europe depuis la chute de Bachar el-Assad. Une occasion pour le président français d'aborder avec lui la nécessité de traduire en justice les auteurs des récentes exactions en Syrie et la poursuite de la lutte antiterroriste, selon le chef de la diplomatie française. Emmanuel Macron est vivement critiqué par la droite et l'extrême droite française pour cette invitation. Stupeur et consternation a réagi la leader du Rassemblement national Marine Le Pen, qui décrit le président syrien comme un djihadiste passé par Daesh et Al-Qaïda, selon ses mots. Et dans un tout autre volet, alors que la France fêtera demain le 8 mai 1945, qui célèbre la fin de l'occupation nazie en Algérie, en revanche, cette date là-bas est associée au massacre des populations du Constantinois, des populations qui manifestaient pour leur droit à l'indépendance, des exactions commises par l'armée française longtemps passées sous silence. Les Algériens font état de 45 000 morts et les historiens français estiment qu'environ 20 000 personnes ont été tuées. Et je vous laisse écouter maintenant l'historien Benjamin Stora, chargé d'une mission sur les mémoires de la colonisation et de la guerre d'Algérie.
Le 8 mai 1945, évidemment, tout le monde le sait, s'il s'agit de le jour de la victoire remportée contre le nazisme au terme de la Seconde Guerre mondiale en Europe, qui a été absolument terrible. Et dans un certain nombre de villes d'Algérie, des Algériens ont voulu eux aussi manifester ce jour, mais pour réclamer plus de droits, notamment la libération aussi de leur leader Messali Hadj, qui avait été déporté à Brazzaville quelques jours auparavant. Donc plus de droits politiques, tout simplement, plus d'égalité politique. Et c'est dans ce contexte international, de célébration, de commémoration de cet anniversaire, que un massacre a eu lieu, enfin une répression d'abord, puis un massacre de grande ampleur a eu lieu, qui a duré 2 mois, en mai et juin 1945, dans le nord constantinois.
Ce sont des massacres qui ont été mis en lumière bien plus tard.
Oui, c'est-à-dire que dès 1945, les nationalistes algériens, qui étaient membres du Parti du Peuple Algérien, le PPA, avaient déjà dénoncé tout de suite les massacres qui avaient eu lieu dans cette région, en invoquant le chiffre déjà à cette époque, dès l'été 1945, de 45 000 morts. Puis ensuite, il y a eu une commission d'enquête qui a été faite par la France en 1946, qui avait abouti au chiffre de 1 200 morts. Mais il a fallu attendre très longtemps, effectivement, pour qu'en France, on reconnaisse l'existence de ce massacre, notamment par la déclaration d'abord d'un ambassadeur de France, Hubert Collin-Verdière, sous Jacques Chirac en 2005, et qui avait fait un discours à Sétif, et qui avait reconnu ce massacre comme une tragédie inexcusable, enfin je cite ces mots, et puis ensuite un discours de Bernard Bajolet, qui était aussi ambassadeur de France, et qui avait fait un discours à Guelma en 2008, qui avait reconnu l'existence de ces massacres, mais effectivement on a attendu pendant de très longues années, malgré les travaux des historiens, qui avaient quand même considérablement progressé, d'ailleurs, tout au long des années 2000, hein, sur ces massacres. Il y avait eu des travaux notamment de Jean-Louis Planche, d'Annie Goldzeiger, et puis naturellement des Algériens, hein, comme Mahfoud Kaddash, etc.
Ces manifestations, elles sont considérées comme le prémisse de la guerre d'indépendance?
Ces manifestations, elles signifient que pour toute une génération de très jeunes Algériens à l'époque, qui avaient entre eux, grosso modo, entre 15 et 25 ans, la violence qui avait été exercée contre la population algérienne, provoque une prise de conscience importante dans la jeunesse, qui s'engage en politique à cette époque-là et qui pense que le recours à la lutte armée y devient de plus en plus indispensable. Seulement 2 ans après Ce qui s'est passé à Sétif, il y aura la création d'une première organisation clandestine qui s'appelle l'organisation spéciale, qui a été dirigée par Ben Bella et Aït Ahmed, qui préparaient la lutte armée en 1947. Donc c'est 2 ans après, et puis ensuite on sait que la majeure partie de ces gens qui ont composé cette organisation spéciale ensuite déclencheront disons cette insurrection qu'on connaît sous le terme disons du 1er novembre 1954, donc presque 10 ans plus tard, donc de ces événements.
C'était Benjamin Stora, historien chargé d'une mission sur les mémoires de la colonisation et de la guerre d'Algérie. Et dans un autre volet, des parlementaires français vont se rendre en Algérie pour commémorer ces massacres du 8 mai 1945. Et ceci dans un contexte de crise entre les deux pays. Les précisions avec vous, François-Xavier de Calonne.
Oui, cette délégation se rend en Algérie alors que la situation est bloquée entre Paris et Alger. C'est ce qu'a souligné le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot. La crise diplomatique déclenchée en juillet dernier par la reconnaissance française de la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental n'a cessé de s'amplifier. La décision, mi-avril, de Paris d'expulser 12 agents servant dans le réseau consulaire et diplomatique algérien en France et de rappeler son ambassadeur à Alger pour consultation en représailles à des expulsions similaires annoncé par l'Algérie, a intensifié ces tensions. C'est donc dans ce contexte que plusieurs élus français, dont des députés et sénateurs de la gauche et du centre, sont attendus ce jeudi en Algérie pour commémorer les massacres du 8 mai 1945. Ces élus français souhaitent, dans le cadre de l'amitié franco-algérienne et du travail de mémoire, honorer les victimes de la répression sanglante par la France des manifestations indépendantistes du 8 mai 1945. C'est ce qu'indique à l'agence France-Presse le député socialiste Laurent Lardite, président du groupe d'amitié France-Algérie. Une journée de commémoration du 8 mai a été décidée en 2020 en Algérie par le président Abdelmadjid Tebboune. Une journée, selon les mots d'Alger, en reconnaissance des énormes sacrifices consentis par le peuple algérien lors des massacres du 8 mai 1945 et du déclenchement de la guerre de libération nationale le 1er novembre 1954.
La frontière entre l'Inde et le Pakistan s'embrase. Les bombardements de part et d'autre ont fait au moins 38 morts, 26 côté pakistanais et 12 côté indien. Les détails avec vous, Loïc Barrière.
C'est la confrontation militaire la plus grave entre l'Inde et le Pakistan depuis 20 ans. À l'origine de cette tension, le meurtre par des hommes armés de 26 hommes à Pahalgam, au Cachemire indien, le 22 avril. L'Inde a mis en cause le rôle d'un groupe islamiste lié au Pakistan dans l'attentat, mais Islamabad a démenti toute implication. Après des frappes indiennes sur le sol pakistanais en représailles, les deux armées ont échangé des tirs d'artillerie le long de leurs frontières contestées du Cachemire. L'armée indienne affirme avoir détruit 9 camps terroristes. Ces tirs ont également endommagé un barrage hydroélectrique. De violentes explosions ont eu lieu par ailleurs autour de Srinagar, la principale ville de la partie indienne du Cachemire. Le ministre pakistanais de la Défense affirme que le Pakistan a abattu 5 avions ennemis, l'un des sites ciblés dans la nuit par l'armée indienne. Et la mosquée Souban à Bahawalpur, dans le Punjab pakistanais, selon New Delhi, elle serait liée au mouvement djihadiste soupçonné d'être à l'origine de l'attentat du 22 avril. Ce groupe serait aussi responsable des attentats qui ont tué 166 personnes à Bombay en 2008.
La Russie et l'Ukraine ont échangé des frappes de drones cette nuit. 2 personnes ont été tuées à Kiev et Moscou a fermé ses principaux aéroports. Et ceci intervient quelques heures avant l'arrivée de nombreux dirigeants étrangers, dont le président chinois, pour les célébrations des 80 ans de la victoire sur l'Allemagne nazie. Et enfin, au Vatican, le début du conclave aura lieu cet après-midi. 133 cardinaux électeurs y participeront dans la chapelle Sixtine pour élire le successeur du pape François. Le monde aura les yeux rivés sur la cheminée perçant le toit de la chapelle, là d'où émanera tous les 2 tours de scrutin une fumée blanche en cas d'élection ou noire si la majorité des 2/3 n'est pas atteinte. Monseigneur Michel Dubost, ex-évêque d'Évry Corbeil, nous raconte comment se déroule le conclave.
C'est une élection sans candidat. Et sans candidature en tout cas formulée. Et donc, il faut arriver à ce que deux tiers des un peu plus de 130 cardinaux se mettent d'accord sur un seul nom, et ça peut prendre du temps, mais c'est toujours une aventure un peu spirituelle pour chacun d'entre eux, car au fond, ce qu'ils cherchent les uns et les autres, c'est qu'est-ce que l'Esprit Saint m'inspire pour aider l'Église aujourd'hui.
Un conclave peut être marqué par des surprises également.
Oui, c'est arrivé. Pour Jean 23, par exemple, c'était une vraie surprise. J'allais dire que le fait qu'il faille deux tiers des voix, il faut absolument que le nouveau pape rencontre un consensus, alors que les gens qui peuvent être trop marqués par telle ou telle idée ou telle ou telle ne passent pas, même s'ils atteignent très vite des nombres importants de voix, mais il faut deux tiers des voix.
On parle souvent de pape conservateur, de pape progressiste. C'est une expression assez désuète en réalité.
J'espère que tous les papes sont conservateurs et que tous les papes sont progressistes. J'allais dire que nous sommes une religion de tradition, nous essayons de transmettre ce que nous avons reçu, mais la transmission est toujours une création, parce qu'il faut en même temps être fidèle, mais parler aux gens d'une manière nouvelle, puisque le monde évolue toujours et c'est toujours nouveau. Donc, diviser en conservateur et traditionnel n'a pas de sens, ce qui serait beaucoup plus grave, mais à mon avis, c'est pas le danger aujourd'hui. C'est des gens qui ne veulent être que conservateurs ou que progressistes.
C'était Mgr Michel Dubost, ex-évêque d'Évry-Corbeil. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Je vous donne rendez-vous à 15h pour le prochain flash d'information. Très bonne suite des programmes sur Radio Orient.